Il est 18h30 en temps universel, 19h30 pardon en temps universel, 20h30 ici à Paris. Vous écoutez RFI. Merci à vous de nous rejoindre.
Afrique Soir sur RFI. Sylvie Berruet.
Bonsoir à tous. La disparition d'un monstre sacré du cinéma africain, Souleymane Cissé, meurt à Bamako à l'âge de 84 ans, plusieurs fois primé. Il laisse derrière lui une trentaine de films et le 7e art en deuil. Le célèbre cinéaste malien était considéré comme le père du cinéma en Afrique. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo et des tirs et des scènes de pillage à Uvira sous la pression de l'avancée de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda. Et face à cette crise, l'église catholique et les protestants congolais multiplient les initiatives pour un dialogue entre les partis. Vous entendrez l'abbé Donatien Cholet, le secrétaire général de la CINCO. Enfin, l'enlèvement en Guinée d'une figure de la société civile, Adoul Sakho, coordinateur national du Forum des forces sociales de Guinée. On a donc appris ce soir la mort de Souleymane Cissé. Bonsoir Wely Diallo.
Bonsoir.
Et c'est une grande perte pour la culture et pour le 7e art. Le célèbre cinéaste malien était en effet considéré comme le père du cinéma en Afrique. Il laisse derrière lui une trentaine de longs métrages.
Ce grand monsieur s'est éteint à Bamako à l'âge de 84 ans. C'était une figure emblématique du cinéma africain. Son premier long métrage, Den Mousseau, réalisé en 75, lui aura valu un séjour en prison. Mais le cinéaste ne s'arrête pas là. Il poursuivra sa carrière avec deux autres films, Bahara en 78 et Fénier en 82, qui lui ont permis de remporter deux étalons de Yenenga au FESPACO. Son film le plus connu, Yélène, la lumière, en 87, il reçoit le prix du jury au Festival de Cannes. Il devient le premier cinéaste d'Afrique noire à être distingué. Ce ne sera pas son seul film primé tout au long de sa carrière. Souleymane Cissé a été honoré par de nombreuses distinctions, dont le Carrosse d'or en 2023, décerné en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au cinéma mondial. Dans un discours émouvant, il avait déclaré « Le cinéma aurait été ma vie et pour cela, je remercie le cinéma ».
Oui, le cinéma africain en deuil, hein, puisque Souleymane Cissé aurait dû présider le jury fiction long métrage pour la prochaine édition du FESPACO, 29e édition d'ailleurs, qui doit se tenir à partir du 22 février dans la capitale burkinabé à Ouagadougou.
Afrique Soir sur RFI.
Et on en vient à la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo après avoir pris le contrôle de la cité de Kamanyola, située environ 45 km de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Les combattants de l'AFC M23 poursuivent leur avancée en direction d'Uvira, c'est plus au sud. Des tirs sporadiques et un climat de panique ont été signalés dans plusieurs localités environnantes, y compris à Uvira, ville située sur les rives du lac Tanganyika. Patient Ligoti.
Ce matin, des tirs étaient entendus et des pillages se sont poursuivis à Uvira, paralysant tout mouvement, y compris celui des ambulances. Les sources locales accusent des hommes armés, dont les milices et certains militaires, parmi lesquels ceux qui reviennent du front des Kamanyola plus au nord. Dans ce contexte, Médecins sans frontières lance un appel urgent à la protection des civils. Les hôpitaux de la région continuent de recevoir des blessés, en majorité des civils. MSF, qui a dû réduire ses équipes sur place, continue malgré tout de fournir du matériel médical pour les blessés. Une aide encore largement insuffisante face aux besoins grandissants, dit l'organisation. Dans ces climats, de nombreux habitants tentent de fuir Uvira, principalement par les deux ports de la ville. Une embarcation a même été prise pour cible par des hommes armés. Et pendant ces temps, l'AFC M23 poursuit son avancée. Après avoir pris Kamanyola puis Luvungi, les combattants progressent en direction d'Uvira sur la route nationale numéro 5. Sur leur chemin, Sangé et Kiliba, deux localités considérées comme des bastions de Wazalendo, milice pro-gouvernementale. Dans cette zone, des militaires burundais ont été aperçus selon des sources locales.
Et face à cette crise, l'église catholique et les protestants congolais multiplient les initiatives pour favoriser le dialogue. Monseigneur Donatien Cholet, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CINCO, fait partie de cette délégation qui réunit également l'église du Christ au Congo et qui s'est rendue récemment à Goma ces derniers jours. Les religieux ont non seulement rencontré Corneille Nanga, le coordinateur de l'AFC M23, mais aussi le président rwandais, Paul Kagame, et dans le cadre de ces consultations, ils ont aussi échangé avec le président du Kenya, William Ruto. Interrogé par Lisa Fabian, Monseigneur Cholet estime qu'il est important de dialoguer avec l'AFC M23.
C'est une partie du problème aussi, on ne peut pas le mettre de côté. Corneille Nanga et les autres sont des Congolais, ils ont pris les armes. Ils doivent expliquer aux autres Congolais que nous sommes, pourquoi Et les autres Congolais doivent aussi voir avec eux qu'est-ce qu'il faut pour trouver des solutions sans la guerre. Pour arriver à une solution pacifique comme nous la proposons, il faut des signaux de part et d'autre. Il faut vraiment un engagement formel et de la part de M23 et de la part de Kinshasa. Il ne faudra pas que M23 considère que ce qu'on leur demande, c'est pour laisser le temps à l'autre camp de s'organiser. Il ne faudra pas que de l'autre côté de Kinshasa, on considère les négociations comme une faiblesse. Non, la guerre n'est vraiment pas une solution pour nous.
Voilà l'abbé Ncholet, secrétaire général de la CINCO, qui sera donc l'invité demain d'Afrique Matin. Dans l'actualité également, le Soudan, avec des inquiétudes et la colère du Soudan face au Kenya. Le Soudan qui donc souhaite proclamer un gouvernement parallèle, ce qui risque d'aggraver la crise, s'inquiètent les Nations Unies. La proclamation attendue ce vendredi de ce gouvernement parallèle par les paramilitaires soudanais augmenterait la fragmentation du pays. Et c'est une initiative qui a été lancée à Nairobi, au Kenya, d'où la colère de Khartoum. Gaël Alex.
Pour les autorités de Port-Soudan, le Kenya a violé tous les traités internationaux dont il est signataire, comme la Charte des Nations Unies ou l'acte constitutif de l'Union africaine. Accueillir les dirigeants des FSR et leur permettre de mener des activités politiques de propagande, alors qu'ils continuent de massacrer des civils sur la base de leur ethnie, constitue une approbation et une complicité de ces crimes odieux, écrit le communiqué. Le ministère soudanais des Affaires étrangères appelle donc la communauté internationale à condamner cet acte hostile. Que les FSR et la société civile soudanaise travaillent à Nairobi. À dresser une feuille de route et à proposer des dirigeants est compatible avec le rôle du Kenya dans les négociations de paix, écrit quant à lui le ministère kényan des Affaires étrangères dans un communiqué publié ce soir. Ce n'est pas la première fois que le torchon brûle entre Port-Soudan et Nairobi. Le Kenya a accueilli à plusieurs reprises le général Emeti, commandant des forces de soutien rapide. En janvier 2024, le président William Ruto lui avait même déroulé le tapis rouge, ce qui avait valu le rappel à Port-Soudan de l'ambassadeur soudanais à Nairobi. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
L'opposante tunisienne Siem Bensedrine, l'une des militants des droits humains les plus connus du pays en détention depuis le mois d'août, a été remise en liberté ce mercredi soir. Elle a été la présidente de l'instance Vérité et Dignité, une instance qui a auditionné des milliers de victimes des aires Bourguiba et Ben Ali. La justice la poursuit notamment pour des soupçons de falsification d'une partie du rapport final de cette instance. La Cour d'appel de Tunis a ordonné sa libération, mais elle reste poursuivie dans cette affaire et aussi interdite de voyager. La Guinée, avec ce nouvel enlèvement musclé, au moins le cinquième en 7 mois, cette nuit à Conakry, Adoul Sako, le coordinateur national du Forum des Forces Sociales de Guinée, a été emmené par des individus masqués et en uniforme. Ils ont forcé l'entrée de sa maison. Adoul Sako, figure de la société civile, est l'une des voix les plus critiques de la transition conduite par la junte du général Mamadi Doumbouya, et les ravisseurs d'Adoul Sako ont fait preuve d'une rare violence. Les explications de Sidi Yansani.
C'est vers 4h du matin que 3 véhicules pick-up se garent au quartier Kiroti de la commune de Lambani, dans la haute banlieue de Conakry. Des individus, pour certains cagoulés et en uniforme militaire, interrogent des voisins. Ils leur tendent la photo d'Adoul Sako et leur ordonnent fermement d'indiquer le domicile du militant. Après avoir repéré le lieu, les kidnappeurs tentent de forcer l'entrée, mais la porte métallique résiste. Ils décident de percer une brèche dans le plafond de la terrasse extérieure afin de se faufiler dans les combles de la maison et forcer leur chemin jusque dans le salon de la famille Sako, provoquant d'énormes dégâts. Les individus sortent violemment le militant de son lit, le ligotent sous les yeux de sa mère, son épouse et leurs enfants, avant de convoyer Adoul Sako vers une destination inconnue.
Il... 20h40, ici un petit problème d'aiguillage. On a perdu Sidi Yansani en cours de route. On le réécoutera un peu plus tard. Sans doute un incident technique. Toutes nos excuses. On va terminer avec cette information. Vous le savez sans doute, c'est une soirée spéciale football que nous vous proposons sur RFI ce soir. La Ligue des Champions et les barrages retour avec notamment la rencontre très attendue entre le Real Madrid de Kylian Mbappé face au Manchester City. Une rencontre commenté par Cédric d'Oliveira, notre envoyé spécial en Espagne, notre rencontre.